rendez-vous le 27 octobre de 9h à 15h à l'espace cycle supérieur des portes ouvertes de l'UDM. C'est l'occasion parfaite pour poser vos questions aux professeurs et aux étudiants. On vous attend dès 9h au pavillon 3200 Jean-Briand.
Allô tout le monde, il est présentement midi, vous êtes sur les ondes de CISM 89.3, La Marge, et vous écoutez le sixième épisode de Bulle d'écoute. Comme chaque mardi, notre équipe s'empare du micro et on vous accompagne sur votre heure de lunch. On s'installe avec vous devant notre café pour échanger, revisiter et se questionner sur plein de thématiques et d'actualités, le tout dans une ambiance décontractée. Ensemble, on incarne la voix des finissants certificats en journaliste de l'UDM. Une fois de plus, mes co-chroniqueurs dévoués, Mélissa Samano-Ouellette, Tristan Dagorne, Maëna, Anne-Lie Trudel et moi-même, on vous invite à embarquer dans notre bulle conversationnelle.
Bon midi tout le monde!
Allô!
Bon midi!
Donc, d'ailleurs, si vous souhaitez interagir avec nous pendant l'émission, n'hésitez pas à commenter nos posts sur notre compte Instagram. Votre opinion nous intéresse, donc allez nous rejoindre sur bulle-d'écoute.officiel en minuscule et sans accent. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre. Sur ce, voilà, à quoi vous attendre pour cette émission? Tristan part le bal avec le rôle des universités dans les élections américaines, pardon. Comment l'implication des universitaires sont importants dans notre processus démocratique. On aura ensuite la chance de discuter avec Anne-Lie et Maëna de la mise en scène au cinéma de la violence conjugale. Elles feront d'ailleurs référence au film « Eden with Us ». Ça se termine avec nous, qui est présentement à l'affiche au cinéma. Mélissa conclura finalement cet épisode en abordant le phénomène des Sephora Kids et de TikTok. On aime toujours déconstruire nos concepts de beauté, surtout leur impact sur les jeunes. Alors, restez à l'écoute jusqu'à la fin, ça risque d'être vraiment intéressant. Avant de commencer sur notre bulle politique avec Tristan, avez-vous vu, ça l'a tourné un peu partout, mais dans le Journal de Montréal, ce matin, j'ai vu le désert du Sahara est inondé pour la première fois en 50 ans. Je ne sais pas si vous avez vu les images.
Non, inondé.
Non, moi non inondé. Plus, mais j'en ai entendu parler justement ce matin, mais j'ai pas vu d'image.
Mais les images, c'est vraiment impressionnant. Le déluge a créé des mini-lacs en plein milieu du désert. Et autant c'est choquant niveau climatique, changement climatique, autant c'est magnifique.
Ouais. Mais c'est une partie du désert ou c'est où exactement dans le Sahara parce que c'est tellement grand que...
C'est un peu dans le sud du Maroc.
Okay.
C'est près des frontières du sud du Maroc, mais honnêtement, je ne suis pas experte. Je ne sais pas si ça s'est sûrement déroulé
dans... Étendu.
Étendu, mm-hmm. Exactement. Puis je vais y revenir d'ailleurs, mais c'est les touristes qui étaient heureux parce que c'est quand même un moment historique pour eux. Les gens qui étaient présents, il y a plein de photos, plein de gens sur Instagram, vous allez voir qui ont pris des photos avec. C'est vraiment magnifique.
Ah oui.
Puis on pourrait croire que dans ces régions arides, c'est bénéfique pour la population qui ont de la difficulté à se procurer de l'eau. Mm-hmm. Ça remplit les nappes phréatiques dans lesquelles la population puise leur eau, mais ce qui est à savoir, c'est que les sols arides, ils absorbent mal l'eau, en fait. Donc, ça crée des glissements de terrain puis des inondations pour les populations qui sont autour. D'ailleurs, au Niger, au Mali puis au Tchad, ces pluies extratropicales ont fait des centaines de morts. Donc, les peuples vulnérables, une fois encore. Oui, chérie.
Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est le changement climatique? C'est des pluies?
Mais c'est des phénomènes complexes.
Okay.
Donc, j'écoutais les experts un peu. C'est difficile d'affirmer que c'est les changements climatiques. Mais honnêtement... avec la hausse des températures, l'évaporation d'eau dans les océans.
Ouais, ça serait pas surprenant.
On peut se douter qu'il y a un lien à faire. Donc une fois encore, c'est les peuples les plus vulnérables qui en subissent les conséquences du réchauffement climatique. Donc il faut garder ça en tête, mais c'est quand même impressionnant. Malgré tout, on sent un peu mal d'être fasciné par ce phénomène quand on sait qu'il y a des gens qui le subissent, mais voilà. Allez voir les photos, c'est impressionnant. Sur ce, rentrons dans notre bulle politique directement avec Tristan.
Offrez-vous des sorties culturelles avec l'OSM. Découvrez les grands classiques, les concerts pop, les ciné-concerts et plus encore. Profitez également de la nouvelle formule de concerts 5 à 7 aux côtés de l'humoriste Philippe Audry, la rue Saint-Jacques, accompagné de clés d'écoute en direct. Profitez des tarifs 35 ans et moins afin d'obtenir 4 concerts pour seulement 115 $, taxes incluses. Faites vite, l'offre prend fin le 1er novembre. En vente dès maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
Alors, bonjour à tous, ici Tristan pour notre chronique politique aujourd'hui. On va plonger aujourd'hui dans le rôle essentiel que jouent les universités dans le cadre de la prochaine élection américaine. Pour commencer, parlons de la démocratie étudiante. On va vous donner quelques chiffres. Selon le National Center for Education Statistics, il y avait environ 19,7 millions d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis en 2020. Je sais pas si on se rend compte, mais 19,7 millions de personnes, c'est la moitié de la population canadienne. C'est un quart de la population française aux États-Unis sur 19,7 millions d'habitants. C'est énorme. Ce chiffre a tendance à augmenter chaque année, ce qui représente une part significative de l'électorat américain. En 2020, les jeunes de 18 à 29 ans ont voté à un taux de 50%, soit une augmentation par rapport aux élections précédentes selon le Census Bureau. Cela montre que les étudiants peuvent avoir un impact déterminant sur les élections, les résultats des élections. 50% dans des élections, c'est quand même un beau chiffre. Les universités jouent un rôle clé dans la mobilisation des étudiants chaque année. Par exemple, l'organisation Rock the Vote a collaboré avec de nombreuses universités pour encourager l'inscription sur liste électorale, que ce soit pour les étudiants, mais pour les citoyens américains. En 2020, cette organisation a déclaré que 1,6 million d'étudiants s'étaient inscrits grâce à leurs efforts. Des initiatives comme Vote Everywhere, lancée par la Campus Vote Project, vise à faciliter l'inscription et à informer les étudiants sur les questions électorales. Un rapport de Tufts University a révélé que le taux de participation des étudiants avait atteint 66% en 2020, une augmentation notable par rapport aux 50% en 2016. Cela montre que les efforts de mobilisation portent leurs fruits aujourd'hui dans beaucoup d'universités, dans beaucoup d'États aux États-Unis. Les campus universitaires sont également des lieux où le débat démocratique prospère. Selon un rapport du Pew Research Center, 72% des étudiants estiment que les discussions sur le campus sont essentielles pour développer leur opinion politique. Surtout quand on sait que les universités sont des lieux d'échange, de débat. Les universités organisent régulièrement des conférences ou même des événements avec des intervenants politiques qui favorisent la réflexion. Je pense que vous pouvez vous renseigner, mais chaque semaine, il y aura toujours une conférence sur un sujet divers et varié qui touche la politique ou non. Les études montrent également beaucoup que les étudiants engagés dans des débats politiques sont plus susceptibles de voter. Un rapport de Circle, le Centre pour l'engagement civique et l'éducation des jeunes, indique que les étudiants qui participent à des activités civiques sur le campus votent à un taux 14% plus élevé que ceux qui ne le font pas. Après, au niveau de la recherche et de l'analyse des enjeux, l'université contribue également à la compréhension des enjeux politiques d'une certaine manière à travers la recherche. Par exemple, des études menées par des chercheurs d'institutions comme Harvard, Stanford, ont exploré des sujets tels que l'impact du changement climatique sur les élections. Quand on sait que les politiques se déplacent beaucoup, que ça demande énormément d'argent d'investir dans des campagnes électorales, ou l'importance des questions raciales et de genre dans le choix des électeurs. Quand on parle des questions raciales, on peut se rappeler à Martin Luther King et sa guerre contre les blancs, entre guillemets. On sait que ça s'est joué beaucoup dans des universités à l'époque et que c'était clairement le siège et la base justement des revendications. Une étude de l'American Political Science Review a révélé que la recherche universitaire peut influencer les politiques publiques en fournissant des données probantes qui éclairent le débat politique. Cela montre que les universités et les universitaires ne font pas seulement des observateurs. Ce n'est pas juste un lieu de débat, mais c'est aussi des acteurs clés dans la formation des discours électoraux. Enfin, les universités ne se contentent pas de travailler en interne. Elles s'engagent également avec les communautés environnantes pour renforcer la participation électorale. Il y a plusieurs programmes qui existent, tels que The Andrew Goodman Foundation, qui collabore avec des universités pour créer des stratégies d'engagement communautaire, permettant ainsi d'atteindre des électeurs potentiels souvent négligés. Je sais que ça se passe beaucoup dans l'État du Massachusetts ou dans les États clés de l'élection américaine, les états clés, les états, les bastions démocrates, où on sait que les gens vont clairement voter démocrate et que ça va être un état démocrate comme le Massachusetts, comme l'état de New York, où ça changera pas forcément et que c'est traditionnellement démocrate depuis des années et des années. dans ce genre d'état-là. On va le voir même dans 2 semaines, je vous en parlerai un peu plus tard, mais l'élection se joue là-bas aussi parce que les citoyens et l'électorat américain participent à une certaine manière à essayer de ramener de l'électorat vers les démocrates dans d'autres universités. Notre correspondant, on a un correspondant à Boston, dans le Massachusetts, justement, pour les élections américaines, qui m'a fait savoir la dernière fois que les gens là-bas et les électeurs démocrates de l'État du Massachusetts envoyaient des cartes postales dans des États républicains pour influencer le vote des républicains. Donc ça, c'est quand même intéressant de savoir, je le savais pas du tout. C'est ça, il y a beaucoup de programmes tels que The Andrew Goodman Foundation qui collabore avec des universités pour créer des stratégies d'engagement communautaire permettant ainsi d'atteindre des électeurs potentiels et souvent négligés. Un rapport de Civic Nation a révélé que les universités qui collaborent avec des organisations communautaires ont un taux d'inscription des étudiants à voter qui est 20% plus élevé que celles qui n'ont pas de telles initiatives. Les universités américaines jouent un rôle fondamental dans le paysage électoral et sont des lieux de mobilisation, de débat, de recherche et d'engagement communautaire, alors que nous préparons pour cette prochaine élection qui, comme si vous avez déjà écouté Bulle d'écoute depuis le début de l'année universitaire, vous savez qu'on en parle beaucoup, qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et il est essentiel de reconnaître l'impact de ces institutions sur la démocratie, surtout quand on sait que il y a énormément d'électorats et que la jeunesse est souvent engagée politiquement parlant. Notez sur votre agenda, dans 2 semaines, le 29 octobre, nous recevrons justement pour l'occasion Marin Fortin Bouteau, chercheur de la chaire Raoul Dandurand, qui est spécialiste sur les questions des lois électorales américaines, stratégie de suppression de vote, démocratie américaine. Et il y aura également notre correspondant à Boston, Mathieu Mercier, qui sera également présent pour nous parler de l'actualité sur l'élection américaine dans le Massachusetts, plus particulièrement à Boston, comme je le disais, bastion et état clé pour les démocrates. Il va nous expliquer comment les électeurs et citoyens de cet état s'impliquent dans l'élection, malgré que le résultat de cet état soit déjà joué d'avance. Nous vous proposerons également un reportage dans les universités de Boston, où les étudiants américains montreront comment ils s'impliquent au sein de leurs écoles. Moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, dans les universités françaises, je sais qu'il y a beaucoup d'universités qui sont très engagées politiquement. Moi, j'étudie juste avant l'université Rennes 2, qui est réputée dans la France entière pour être une université de gauche, là, même d'extrême gauche. Là. Énormément de choses qui sont faites. Quand il y a des lois ou des réformes qui sont passées, le premier porte-parole des étudiants et des jeunes en France, c'est souvent les universités. Donc je trouvais que c'était quand même assez important d'en parler quand on sait que le rôle crucial que va avoir les prochaines élections américaines.
Ouais.
Merci Tristan pour ta chronique. L'implication étudiante, c'est sûr, c'est important. Surtout qu'on sait que ben on est jeune encore, mais un jour ça va être nous qui va avoir ces rôles importants. Donc impliquez-vous. Faut s'impliquer. Après la pause musicale, on aborde la représentation de la violence conjugale au cinéma avec Maina et Ali. Entre-temps, voici « Je t'aime, je te déteste » de David Boujold. À tout de suite.
Qu'est-ce que j'aurais sans toi? Montre-moi.
C'était « Je t'aime, je te déteste » de David Boujold. Vous êtes de retour à Bulle d'écoute sur les ondes de CISM 89.3, la référence en musique et culture alternative et émergente au Québec. Il est présentement 12h16. Et Annie et Maïna vont nous parler de « Eden with us ». Ça se termine avec nous. La mise en scène au cinéma de la violence conjugale. On vous prévient, il risque d'avoir un spoiler. Mais il va être averti d'avance si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller voir le film. Alors, comment Hollywood met en scène des thématiques fortes? On en parle tout de suite avec Anne-Lee et Maïna.
Si vous êtes connecté sur le Bookside de TikTok où vous suivez des recommandations de vos amis, des influenceurs, vous avez sûrement déjà dû entendre parler du film It Ends With Us, en français Jamais Plus, écrit par Colleen Hoover. C'est le roman qui est rapidement devenu un incontournable mondialement. À ce jour, il est traduit dans 20 langues et il serait vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Il a fait fureur en partie grâce à son nouveau genre qui plaît énormément au public, le New Romance. En fait, c'est un nouveau genre littéraire d'histoire d'amour avec des scènes de sexe explicites où la majorité du temps, les personnages ont souvent un passé douloureux, ils sont jeunes, ils sont beaux, mais ça représente aussi, dans la majorité du temps, des histoires d'amour toxiques. Donc Jamais Plus, c'est un des romans les plus populaires au monde, mais aussi un des plus controversés. Le livre a tellement été en fait un succès qu'il a été adapté en film, réalisé par Justin Baldoni. Il a fait sa grande sortie au cinéma le 9 août 2024 et il a suscité de nombreuses réactions chez le public.
Oui, son histoire originale de Colleen Hoover dans le roman commence avec une histoire d'amour à l'eau de rose qui fascine autant les ados que les adultes, où le personnage principal, Lily, est forte amoureuse d'un neurochirurgien, Ryle. Mais au fur et à mesure que les pages avancent, l'histoire fait un 360 et vient dissimuler une réalité vécue, malheureusement, par de nombreuses femmes, la violence conjugale. Et c'est ici que pose le gros problème de l'adaptation du film, du livre au film. C'est la manière dont l'histoire de Lily a été représentée. C'est comment la violence domestique est si détaillée dans le livre et comme laissée un petit peu au second plan dans le film pour en faire un peu une œuvre romancée, comme Maïna expliquait tout à l'heure.
En fait, déjà avant sa sortie, le film n'y a pas échappé aux critiques. Juste avec, par exemple, le choix des acteurs. Avoir choisi Blake Lively, la célèbre actrice blonde de Gossip Girl, pardon. En fait, le problème, c'est qu'elle est considérée comme trop isolée des réalités amères de la vie pour parler franchement et de représenter des sujets aussi lourds, notamment en raison de sa richesse et de ses privilèges. Alors, bien évidemment, la majorité des acteurs d'Hollywood, ils sont dans la même situation que l'actrice Blake, mais il n'empêche que le public l'associe encore avec son rôle de la série Gossip Girl. Donc, c'était sans doute pas le meilleur move en la castant pour pour parler d'un sujet qui est si touché et sensible. Ensuite, on ne peut pas parler du film sans parler de la bande-annonce. Dès les premières secondes, le choix des images, la musique, ça vous plonge directement dans une ambiance et ça vous fait penser que le film, ça va être un film d'amour d'été, bien cute, bien romancé. En aucun cas, on s'imagine la réalité de l'histoire. On voit quelques scènes de violence, mais très très bénignes, qui sont évitées et cachées par l'utilisation d'un fondu noir. On reviendra d'ailleurs sur ce fondu noir dans quelques instants, mais rien que la bande-annonce, elle banalise déjà le sujet principal de l'histoire en l'évitant, en le romantisant. Les scènes de violence, on les voit pratiquement dans toute la bande-annonce. Donc il n'y a aucune surprise en fait en allant en salle de cinéma, sauf une qui a été mise de côté. En tout cas, je ne pourrais pas vous évoquer toutes les critiques qui ont été reçues sur tous les aspects, mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. Le problème qu'on adresse aujourd'hui, c'est la manière dont Hollywood représente des thématiques comme la violence conjugale domestique dans ses films. Tous les acteurs et les fans du livre, ils étaient impatients face à la sortie du film, mais la mise en scène de l'histoire et le sujet de la violence conjugale n'ont clairement pas été pris au sérieux. Ils prennent un livre qui a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, qui est célèbre pour le détail apporté à l'histoire, avec tous les ressentis, les sentiments, les références entre les personnages. C'est tout ça qui en font sa beauté, et ils en font une adaptation d'un roman d'amour. C'est pas ça le but. Après, forcément, le livre, il comporte pas tous les détails, le livre comporte énormément de détails, pardon, c'est certain qu'on peut pas tout inclure dans un film de 2 heures, mais dans ce cas, faut l'aborder différemment. Dans le livre, les scènes de violence physique, sexuelle, elles sont explicites, elles sont extrêmement bien racontées. c'est ça qui fait le réalisme du roman et qui permet de comprendre comment se développe une relation abusive, pourquoi c'est compliqué de quitter la personne. On y parle de sujets très sensibles, comme j'ai dit, de relations abusives, de dépression, de viol.
Ben justement, comme elle dit, tu sais, dans le film, les scènes de violence sont quasiment pas présentes. Elles sont présentes, évidemment, mais c'était plus facile pour nous qui ont lu le livre de se les imaginer. Elles sont comme remplacées par des fondus noirs. Ça peut un peu dissimuler ou même décrédibiliser les scènes de violence conjugale. Exactement comme avec la scène, là, c'est là le spoiler alert, on vous le dit, où est-ce que Riley pousse sa femme en bas des escaliers et il lui fait penser que c'est de sa faute à elle. On comprend l'idée du fondu noir pour qu'on croie, nous aussi, les spectateurs, que c'est de sa faute. Mais il y aurait eu un moyen de faire des cascades, puis qu'on la voit tomber, qu'on se mette derrière l'épaule de Ryle pour qu'on comprenne quand même que c'est de sa faute à elle. Hollywood a de l'argent. Ils peuvent se permettre d'engager des cascadeurs, de mettre des fonds verts. Parce que dans quel monde on remplace un fondu noir par une... Non, l'inverse. Dans quel monde... Un fondu noir peut remplacer une vraie cascade. Ça dédramatise la chose, ça enlève la crédibilité au récit du livre à la base même, mais aussi de ce qu'ont vécu les femmes, je trouve.
Mais c'est ça le problème avec Hollywood, c'est qu'on veut parler de thématiques taboues, des thématiques touchées, sensibles, mais on veut que ça fasse du chiffre d'affaires. Alors comment on fait ça? Eh bien, on va rendre le tout esthétique, agréable visuellement, avec des beaux personnages, on veut garder la romance parce que, de toute façon, c'est ça que les femmes, elles aiment. On veut pas choquer, on veut pas avoir de sang ni de coups. Mais c'est soit tu fais tout, soit tu fais rien. Tu ne peux pas te permettre de prendre une histoire qui a été adorée par le public, justement parce que ça fait partie des rares livres qui témoignent en détail de ce que vit une femme avec un mari violent, de son passé, de son présent, comment elle en arrive à cette situation, comment elle va s'en sortir pour, au final, ne même pas s'attarder sur le sujet principal.
Oui, mais je pense qu'Hollywood a tout le temps fait ça. T'sais, je pense que même... Avant, si tu regardes l'âge d'or d'Hollywood, c'était tout le temps exagéré, c'était tout le temps des histoires où il y avait comme de l'action mise en avant, donc des missions comme avec des personnages où c'était vraiment des héros. Donc là, je pense que le fait de le faire avec un sujet comme la violence conjugale, ça marche pas, mais ils le font parce que ben ça ramène de l'argent quand même, ça fait du buzz puis de l'attention.
Mais est-ce que ça se peut aussi qu'ils coupent les scènes de violence pour que la morale de l'histoire soit plus accessible aussi aux plus jeunes?
Parce que je pense
qu'il y a une certaine pertinence aussi à ce que des enfants qui de 13 ans, de 14 ans puissent avoir accès au film. Puis oui.
Mais c'est ce que je voulais dire aussi. Je peux te laisser finir là, si tu veux. Mais...
On a le même opinion.
Mais c'est ça, je pense que aussi quand on parle d'argent, le fait que Hollywood veut aussi que ça fonctionne, c'est aussi en romantisant le plus ce genre de film, c'est que ça soit accessible aux plus jeunes et aux plus nombreux pour amener de l'argent. Moi, je suis je suis pas d'accord avec ça ni rien, parce qu'au contraire, je trouve que genre prendre un livre qui à la base parle de violence conjugale, on sait que genre c'est ultra important dans les débats actuellement, ça doit pas être romantisé pour moi, parce que c'est comme quand on parle de films de crimes de guerre ou autre chose, là, genre peu importe ce qu'on dénonce, ça doit représenter la réalité pour qu'on se rende compte de quoi ça parle.
Je voulais réagir avec ce que tu avais dit, mais j'ai oublié le mot que je voulais partager. Oui, je suis d'accord avec ta cause, mais je trouve ça dommage de minimiser le sujet pour donner l'accès. Alors qu'à la base, dans le livre, il est clairement pas accessible pour les personnes de 13 ans. Tout est explicite, toutes les scènes de violence, toutes les scènes de sexe, enfin, vraiment tout ce qui se passe est extrêmement détaillé. Puis justement, t'as le ressenti de l'actrice. Je trouve ça dommage de le romantiser pour le... Oui, c'est sûr que le rendre... Je vais trouver mes mots, je vais y arriver. Oui, c'est sûr que le rendre accessible à plus de personnes pour que la morale soit plus étendue, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie.
Surtout que ça peut
réaliste un peu là.
Ben exact, et surtout que c'est à l'âge, tu sais, 13-14 ans, c'est l'âge où qu'on découvre notre l'amour, on découvre c'est quoi, et il faut pas oublier qu'il y a du monde de cet âge qui peuvent vivre de la violence domestique. Fait que c'est important de le dédramatiser puis de le mettre à l'écran, tu sais.
Mais est-ce que vous trouvez que une histoire comme ça à Hollywood, ça normalise un peu la violence, puis les jeunes vont penser que c'est comme pas normal, mais
je pense que c'est une question de méfiance et de prévention.
Ouais. Ouais. Okay.
Mais je me disais aussi, tu sais, on se doute bien quand il y a des blackouts, comme tu dis, de ce qui se passe après, de la violence qui est en cours. Est-ce que de montrer des scènes de violence dramatiques et tout, ça ferait pas justement ça un peu mettre l'accent de l'action au lieu des sentiments, si vous voyez ce que je veux dire?
Parce que je pense que c'est un mélange des deux. Okay. Genre, la violence domestique, c'est vraiment un amalgame des deux. Puis je pense que ça nous plongera encore plus dans la réalité de la chose. T'sais. En parlant de réalisme, c'est une question qui revient fréquemment quand on parle d'Hollywood puis de ses films. On a eu la chance de parler avec Audrey, qui plus jeune, même très jeune, a vécu de la violence conjugale. Et on voulait aborder avec elle les différents aspects du film pour démystifier le vrai du faux dans Eden's With Us. On a commencé par lui demander si le réalisateur aurait pu aller un peu plus loin, un peu plus cru dans sa mise en scène.
Oui, tout à fait. J'ai remarqué ça aussi. Je trouvais qu'ils ont fait ça smooth, comme on dit, si on veut. Ils ont fait ça doux. D'après moi, il y avait peur de choquer les gens. Mais c'est sûr que la violence conjugale, ça choque si ça avait voulu être bien dépeint. Ça aurait choqué, chose que le film a peut-être pas choqué. Ça aurait pu être plus sensibilisateur, plus réaliste. Là, c'est vrai qu'on voit vraiment que c'est une histoire. C'est très romancé, comme tu dis.
Mais on peut en parler justement de cette sensibilisation avec le public. Ils auraient pu faire tellement de choses avant la sortie du film. Ils auraient pu créer une campagne de sensibilisation comme ça avait été fait avec la série 13 Reasons Why. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une série qui parle d'une variété de sujets comme le suicide, le harcèlement, le viol, l'avortement, etc. Et en fait, à chaque début d'épisode de cette série, il y a des trigger warnings, il y a un site internet qui avait été créé avec des ressources gratuites et des astuces pour les personnes en détresse. Selena Gomez, la réalisatrice de la série, elle publiait énormément sur ses réseaux aussi des pages d'aide et d'autres ressources nécessaires. Mais non, à la place, avec Eden's With Us, on a eu quoi ? On a eu des produits dérivés du film, des livres de coloriage, des tasses ciseaux thermes à l'effigie des personnages, des kits de vernis aux couleurs de la boutique de fleurs de Lily.
Ça revient à tantôt qu'on parlait justement de faire des sous puis avec Hollywood, tu sais.
Tu vois, c'est ça. Le résultat, on fait de la violence conjugale un business. Même les acteurs, en fait, ils ont été critiqués pour ne rien promouvoir sur leur réseau. La seule personne, en fait, qui l'a fait, c'est le réalisateur du film qui s'est prononcé sur le sujet. Le reste des acteurs, ils ont publié des messages de réaction seulement après le début des critiques et du soulèvement des médias. Tu voulais dire quelque chose
d'autre? C'est ça. Je pense qu'au final, c'est un bon exemple, je trouve, 13 Reasons Why, parce que ça montre que tu peux faire une série et un film, parce que c'est une série qui avait super bien marché, là, en proposant des... je me rappelle, à chaque début de film, il y avait marqué attention, ce film-là peut heurter la sensibilité des plus jeunes, etc. Puis à la fin, il y avait toujours un site internet où montrer si jamais vous avez des envies suicidaires, etc. Il y a de l'aide, etc. Ça a bien marché, donc forcément, ça a ramené de l'argent, mais ça dénonçait aussi. Donc, comme quoi c'est possible de faire de l'argent pour le but d'Hollywood, là,
et sensibiliser
en même temps.
Mais c'est ça, parce que la série 13 Reasons Why, ils y sont allés vraiment cru, ok? Genre, les scènes, on voit tout ce qui se passe. Tellement cru que des fois, il y a même des scènes après avoir été, mis en ligne, ils ont été retirés. Mais... Tu vois, encore une fois, ce qui est dommage et ce qui est triste, sachant qu'une partie des auditeurs du film, mais c'est des personnes qui ont vécu de la violence conjugale.
Je pense que ça sensibilise un peu au fait qu'on le voit peut-être un petit peu plus à la télévision, chose que je pense que c'est pas quelque chose qu'on parlait avant, même c'est encore moins quelque chose qu'on voit beaucoup à la télé. Où c'est fait sous l'idée que le mari alcoolique qui bat sa femme, c'est un peu l'image qu'on a au cinéma de la violence conjugale, alors que c'est tellement pas ça. Fait que je trouve que justement It Ends With Us, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait l'homme, c'est un chirurgien, il est bel homme, il est charismatique, on penserait jamais ça de lui en le voyant, il y a pas le portrait typique d'un agresseur. Ça peut peut-être sensibiliser au fait que justement des agresseurs, il y en a partout, puis on peut pas toujours les reconnaître aussi facilement.
Ça me fait penser à une des dernières scènes du film entre Earl et Lily qui se conclut par une simple discussion. Je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais moi ça m'a comme un peu chamboulé quand Lily Bloom a la couche de son enfant dont le père est justement le mari toxique, où elle lui demande le divorce en expliquant. Comment réagirais-tu si ta fille te disait que son mari l'a poussée dans les escaliers? Et il répond, je dirais de plus jamais retourner vers lui. Mais dans quel monde une personne qui vit de la violence conjugale parvient à se débarrasser de son mari avec une seule discussion, avec son bébé dans les bras? On a demandé à Audrey si cette scène représentait, selon elle, la réalité d'une réaction d'un homme violent.
Ça dépend des hommes. Dans la violence conjugale, oui, il y en a qu'on dirait que ils vont l'accepter, mais plus souvent qu'autrement, l'homme va pas l'accepter parce qu'il est en position de contrôle sur la femme. Là, le contrôle, il veut garder la mainmise sur elle, qu'il veut... Il accepte pas aussi facilement la défaite, il accepte pas aussi facilement la rupture, encore plus avec un bébé. Là. C'est pire quand il y a des enfants impliqués.
Ben justement, tu sais, on se dit qu'elle aurait pu aller porter plainte, on aurait pu aller la voir demander du soutien, de la sécurité à la porte. Le film se termine bien, mais encore une fois, combien de femmes, combien d'histoires de femmes qui vivent ou qui ont vécu de la violence conjugale domestique se terminent positivement comme ça?
Surtout quand on compte le nombre de féminicides au Québec. Là, depuis cette année, on en est déjà au 15e depuis le début de l'année. Pour un film dont le thème principal, c'est la violence, je pense qu'on aurait pu quand même retravailler le sujet, surtout que c'était un livre, comme j'ai dit, qui a été vendu, l'histoire en tout cas a été vendue à des millions d'exemplaires. Puis justement, on a demandé à Audrey qu'est-ce qu'elle conseillerait aux réalisateurs hollywoodiens qui souhaiteraient aborder la violence conjugale à l'écran, ou ce que les réalisateurs du film auraient pu faire mieux.
Parler avec des gens qui ont vécu la violence conjugale. Parler avec des victimes, des gens qui l'ont vécu pour pouvoir faire un meilleur portrait de
ce que c'est. Je suis dans ma jalousie, je suis à poids sur mon lit. J'ai même plus envie de me toucher parce que je m'ennuie. Je me sape en bikini, c'est moulant, c'est mimi. Tu peux m'aimer ou me détester, mais c'est pas ta vie. Est-ce que t'as déjà vu Bimbo jalouse? Est-ce que t'as déjà vu Bimbo qui a le blues? Le bébé trouve que je pense trop à la baisse. Et moi j'aime la baisse et je veux être la boss. Je veux être la boss et baiser c'est la base. T'as serré la main, moi on m'a fait la bise. M'a dit en vrai les féministes elles abusent. J'ai dit ta gueule.
Mais t'as vraiment
aucun argument. Je suis à poil sur les réseaux. Bientôt sur Coco Scolaire. Dis est-ce que t'as déjà vu une Bimbo scolaire? Je veux être poétique comme MC Solar. Si solide et en plus elle est aussi solaire. Aussi solaire et en plus elle est super calme. Là un peu avec tes canis. J'ai le corps d'une adulte et le cœur d'une gamine. Toi t'oublies ton enfant intérieur, ça me chagrine. Je suis dans ma jalousie, je suis à poids sur mon lit. J'ai même plus envie de me toucher parce que je m'ennuie. Je me sape en bikini, c'est moulant, c'est mimi. Tu peux m'aimer ou me détester, mais c'est pas ta vie. Je suis dans ma jalousie, je suis à poids sur mon lit.
Mon Dieu, désolé pour ce problème technique. Bimbo jalouse de l'artiste Lagu qui s'est inséré dans le planning aujourd'hui. Ce n'était pas prévu, mais une très bonne musique. Mélissa, Annie, je vous laisse rebondir.
Oui, ben dans le fond, on va juste finir la conclusion qu'Audrey avait mentionnée, c'est de vraiment parler à du monde qui ont vécu la violence conjugale, de se mettre un peu dans la peau, parce que c'est dur d'écrire sur un sujet aussi touché, puis peut-être pas en avoir le réel portrait, tu sais. Mélissa?
Ouais, mais je trouve ça dommage, parce que souvent on associe justement des sentiments forts, de la passion à quelque chose de positif en relation amoureuse, mais dans la violence conjugale, c'est vraiment pas le cas. Au contraire, c'est vraiment pas sain. Puis c'est comme si maintenant on romantisait ça tout le temps, partout, puis ça fait en sorte que même les plus jeunes ou les petites filles de 14 ans justement vont regarder ce film-là puis penser peut-être que c'est normal parce que justement il n'y a pas assez d'alerte qui est faite pour le montrer que c'est pas ça la violence conjugale puis que c'est pas normal puis que c'est pas quelque chose que les petites filles devraient vivre en fait.
Mais je trouve qu'il y a une différence entre romantiser et romantiser. Mm-hmm. Oui, romantiser dans le sens qu'il y a de l'amour, mais c'est ce qui se passe à la base dans un couple. Je ne fais pas une généralité, là. Je fais une généralité, justement, chaque histoire est différente pour chaque personne, mm-hmm. mais il n'empêche qu'à la base, dans ton couple, tu tombes amoureuse de la personne. Ça ne veut pas dire que, tu sais, les actes que va commettre l'homme, ça va se passer direct au début, ça peut se passer 4 mois après, ça peut se passer 1 an après, ça peut se passer n'importe quand, ça veut pas dire que ça va se passer à chaque jour. Au début, il faut le temps que ça s'installe. Fait que t'as le temps de tomber en amour, t'as le temps de vivre ton histoire, de vivre ton honeymoon phase. Puis c'est ça. Puis après, la différence avec romantiser d'Hollywood, c'est justement rendre le tout beau, puis prendre des acteurs. Je trouve ça dommage parce que, encore une fois, avec la série 13 Reasons Why, ils n'ont pas hésité à y aller cru. Tu sais, oui, ça a choqué, mais il y a eu des études qui ont été faites comme quoi la ligne téléphonique qu'ils avaient mis en place, le site internet qu'ils avaient créé, il y a eu tellement de personnes qui se sont connectées puis qui ont été chercher les ressources, puis que ça a aidé des personnes, justement. Ils auraient pu faire la même chose avec ça, parce que, encore une fois, cette série que je parle, elle est disponible sur Netflix, donc elle est encore plus disponible. Pour tous, il y a des trigger warnings. Pareil, elle est accessible directement pour les personnes à partir de 13 ans. Que, par exemple, ce film, on aurait pu faire tellement de choses avec. Surtout avec sa popularité. Oui, il y a une morale à la fin, mais on aurait pu la pousser davantage pour montrer que c'est pas normal et qu'on peut aller chercher de l'aide, qu'on n'est pas tout seul.
Moi, je suis un peu loin de cette réalité-là, de la violence conjugale, heureusement, j'imagine. Mais je me demandais, pour vous, votre avis, ayant écouté le film puis l'ayant analysé, moi j'avais l'impression en l'écoutant que c'était beau justement de voir, souvent on peut juger ces femmes-là puis faire « mais c'est tellement facile, fais juste partir ». Mais le film, moi, il m'a permis de voir que même les femmes qui sont dans cette situation-là, des fois ils peuvent romantiser, tu sais, comme le spoiler alert, mais souvent les scènes de violence sont vraiment minimisées. Puis moi, j'avais l'impression que c'était plus une façon de montrer que pour la femme qu'il vit, elle le minimise elle-même dans sa tête. Puis c'est une façon de voir, d'avoir de la compassion pour ces femmes-là, puis être moins dure en se disant, justement, mais eux, ils le romantisent aussi parce qu'ils sont dans le déni.
Je pense que la déception a été particulièrement pour ceux qui ont aussi lu le livre avant.
Ouais.
Parce qu'on a vécu un peu le sentiment que l'actrice vivait en lisant le livre. Puis quand tu vois les scènes avec le fond du noir, la romance est rapidement revue. Tu sais, on passe pas beaucoup de temps sur la violence, mais c'est sûr que ces femmes-là qui le vivent passent beaucoup de temps dans la violence tout de même, tu sais. Fait que je trouve juste que ça a été comme dédramatisé. OK, on revient à l'histoire d'amour, on vit notre belle vie de riche, puis tout ça. Je trouve que ça a été typique hollywoodien, puis c'est un peu plus ça qui est décevant.
Mais est-ce que vous proposerez quand même aux gens d'aller écouter le film? Est-ce que...
Ben, ça reste un beau film pareil, tu sais. Là, ce qu'on fait, c'est une critique de film. On parle de ce sujet-là dans sa généralité. Mais après, voilà, ça reste un... Tu sais, pour ceux qui ont lu le livre, c'est toujours plaisant de voir son adaptation au cinéma.
Oui, puis ça reste un sujet très important à démystifier tout de même, là. C'est quand même...
Puis c'est intéressant aussi pour tout ce qui est les traumas intergénérationnels, tu sais, de comment ça peut être transmis de mère à fille et tout. Donc, moi, juste pour cette raison-là, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui devraient aller le regarder. Mais en tout cas, merci infiniment, d'ailleurs, à Audrey pour son témoignage. Ça prend du courage de parler de ces choses-là. Merci aussi à Maina et Annie pour avoir ouvert la porte à la discussion. En attendant, on a déjà écouté Bimbo Jalouse. Je vais laisser Mélissa. Oui, je t'en prie.
Oui, non, mais on voulait rajouter quelque chose, c'est qu'en cas d'urgence, vous pouvez composer le 911. Les services de police sont les premiers répondants dans les situations de violence conjugale. En cas de doute, n'hésitez jamais à faire le 911.
Vous pouvez aussi contacter SOS Violence Conjugale, qui est là pour vous servir de première ligne vers tous ces services. Il va faciliter pour la victime la référence en violence conjugale. Et il y a aussi le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Ne vous gênez pas à les contacter.
On sait que c'est plus facile d'en parler, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais encore une fois, si jamais vous nous écoutez puis que vous vous trouvez dans cette situation, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider.
Parfait. Merci. Dans quelques secondes, Mélissa va prendre le relais. Elle va nous parler des Sephora Kids et de TikTok. Yes.
Ouais, ben c'est en scrollant justement sur TikTok la semaine passée, alors que j'y vais vraiment très rarement, presque jamais, mais je suis tombée sur ce nouveau phénomène. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les Sephora Kids. Mais c'est ça, c'est vraiment nouveau, mais c'est quelque chose qui est vraiment lié aux réseaux sociaux puis à la société de consommation en ce moment. Puis peut-être que vous les avez même vus dans un magasin Sephora près de chez vous. Mais qui sont-ils et pourquoi suscitent-ils autant d'attention? Alors, pour ceux qui connaissent pas trop le terme des Sephora Kids, c'est des jeunes filles entre 5 et 11 ans qui trippent déjà vraiment sur le maquillage et les produits de beauté et qui sont influencées par le contenu qu'on retrouve sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, où est-ce qu'ils vont voir les tendances de beauté, les skincare routines, surtout, entre autres, et les tutoriels de maquillage. Ça fait qu'elles vont se garrocher dans les magasins comme Sephora pour imiter ce qu'elles voient, mais aussi pour jouer avec le maquillage, avoir des comportements déplacés et perdre un peu leur enfance à quelque part. Moi, je trouve ça triste. Mm-hmm. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais il y a quand même des questions qui méritent vraiment qu'on s'y attarde parce que ça crée réellement un problème qui reflète aussi des plus gros problèmes sociétaux comme la surconsommation, le branding marketing non éthique et des enjeux liés à la santé mentale aussi de ces petites filles-là à cause d'une utilisation excessive des plateformes comme TikTok chez les jeunes. Premièrement, ça a des gros impacts de santé chez l'enfant. Donc, ces petites filles-là sont bombardées d'une surexposition de vidéos de skincare routine. Je sais pas si vous en avez déjà vu, là, mais c'est, t'sais, souvent, il y a des célébrités, des influenceuses, même Selena Gomez, des chanteuses, des gens vraiment connus qui vont faire ces skincare routines-là. Donc, un truc beauté qu'elles mettent sur les réseaux sociaux. Et là, les petites filles vont développer une peur complètement irrationnelle de vieillir en imitant ce qu'elles voient chez ces adultes-là. Elles vont commencer à prendre des crèmes qui contiennent du rétinol, ce qui accélère vraiment le vieillissement prématuré de la peau. Puis, il y a eu plusieurs cas où est-ce que les petites filles avaient des rougeurs, des démangeaisons. Il y a eu des cas de brûlures dans le visage aussi, donc c'est extrêmement grave. Puis c'est comme leur nouveau jouet, elles demandent même plus de jouets apparemment à Noël ou pour leur fête. Ça cause vraiment un problème à cause de l'influence qu'elles voient sur les réseaux. Elles ne vivent plus leur enfance. Puis naturellement, c'est souvent un produit. Un enfant, c'est souvent un produit de son environnement. Donc c'est souvent, elle va imiter ce qu'elle voit directement. Comme même si sa mère le fait, elle va le faire aussi. Donc c'est aussi un gros problème pour les magasins. Parce qu'il y a de plus en plus d'employés qui en parlent puis qui font des plaintes par rapport à ces enfants-là. Donc, il y a comme une espèce de haine qui s'est développée pour ces petites filles-là, alors que c'est juste des enfants. Elles ne savent pas ce qu'elles font puis c'est pas vraiment de leur faute. Et d'ailleurs, Lauriane, merci beaucoup parce que t'as eu justement un témoignage d'une de tes connaissances qui travaillait au Sephora. Et j'aimerais ça que tu nous le lises, si ça te dérange pas, bien sûr.
Mais oui, elle était trop contente, en fait, de pouvoir enfin partager son expérience.
C'est le fun d'avoir quelqu'un qui a vraiment été dans l'action, qui peut nous en parler. Donc,
OK, je vous lis son témoignage.
Parfait.
Ayant travaillé au Sephora pendant près de 2 ans, les Sephora Kids existent bien et sont de véritables cauchemars pour les employés. Ils détruisent les testeurs, font plusieurs dégâts volontaires parce que c'est la trend et c'est évidemment aux employés à tout nettoyer. La fermeture du magasin prend 1 heure de nettoyage et nous sommes en moyenne 4 personnes à nettoyer pour un Sephora de très petite taille. Le pire, c'est les produits qu'elles achètent, les enfants, les Sephora Kids. Ils veulent juste acheter des produits anti-âge pour la peau que même dans la vingtaine, on ne devrait pas mettre, comme par exemple du rétinol. Un anti-âge tellement puissant qu'à la seconde où tu ne l'utilises pas dans les critères bien précis d'utilisation, ta peau, elle brûle. J'ai souvent dû dire à des fillettes de 8 à 14 ans que je n'étais pas à l'aise de leur vendre le produit. Mais selon ce que j'ai observé au Sephora, ce sont les enfants de parents riches et négligents. Elles viennent seules avec la carte de leurs parents, parfois elles nous traitent très mal et prennent ce qu'elles veulent. Et même parfois, j'ai vu des mères vouloir acheter plein de produits pour la peau pour leur jeune fille, qui n'est pas du tout à l'âge de mettre quoi que ce soit. Ceci arrivait toutes les semaines. Mon cas, qui a été le plus choquant, est lorsqu'une mère m'avait demandé un conseil, me montrant le visage de sa fillette qui était avec elle et qui avait le visage brûlé. Elle me demandait quoi faire puisqu'elle avait acheté du rétinol à sa fille. C'était son initiative et elle voulait régler le visage de sa fille en demandant d'autres produits très forts pour contrebalancer les effets. Frustrée, j'ai demandé à sa fille son âge. Elle m'a dit 12 ans. Sa mère m'a ensuite demandé quel autre exfoliant fort elle pouvait acheter pour le visage brûlé de sa fille. Je lui ai répondu que je n'allais rien lui vendre et qu'elle devait emmener sa fille chez un médecin. Bref, derrière la majorité des Sephora Kids insupportables, nous rencontrons leurs parents qui voulaient régler leur apparence dès l'âge de 8 ans.
C'est vraiment... merci pour ce témoignage. C'est quand même grave là, de voir qu'il y a des parents impliqués, mais je vous pose la question. Selon vous, le problème, est-ce que c'est plus à cause des parents ou ça serait autre chose, si on y pense 2 secondes?
Moi je trouve que les parents ils ont une implication grande là-dedans. Mais exemple, ouais. Moi je me prends comme exemple personnel, si je voulais me maquiller jusqu'à la mi-adolescence, c'était du maquillage Dollarama ou du maquillage comestible, justement, puis pas touche au maquillage des parents, il était en hauteur, parce que c'est une question de sécurité, la brûlure pour le visage, justement. Je trouve qu'il y a une grave erreur dans les trends TikTok, justement, le numérique.
Oui, mais par exemple, si un père... Ah, oh, pardon, maintenant, je vais...
J'allais dire, je suis outrée du témoignage.
Oui.
Tu sais, oui, je vois passer les articles journalistiques, etc., sur ce jeu-là. Oui, je les vois aussi sur TikTok, tu sais, comme les Sephora Kids faire leur make-up et tout. Mais d'entendre la réalité des choses par une personne qui l'a vécu...
Qui le vit au quotidien.
Wow! Mais comme tu dis, Annie, comme moi, je suis totalement d'accord, les parents doivent contrôler le contenu que les enfants y voient. Enfin, je trouve ça pas normal d'être exposé à ce genre de vidéo aussi jeune. Comme tu disais, moi, si je voulais du make-up, là, c'était du make-up qui était mangeable. Enfin, je trouve ça pas du tout adapté.
Oui, mais par exemple, admettons un père qui sait pas trop c'est quoi que sa fille elle veut, puis elle lui dit « Ah, oh, papa, je vais aller au Sephora. Toutes mes amies le font. » Tu sais, c'est un peu difficile des fois pour un parent de gauger ce qui est bon, ce qui est pas bon pour sa fille. Puis s'il voit que toutes les amies, puis que les parents des amies l'acceptent, souvent, il va même pas se poser la question, puis il sait même pas c'est quoi.
Mais je pense que ça reste dans la
discussion. Ça dépend des cas.
Mais... Ça reste dans la discussion mère-père quand même, ou ben là, on dit père-père, mais père-père, ma mère, whatever. Ça reste dans la discussion parentale tout de même, là, comme tout autre sujet. Je pense que il peut appeler la mère ou l'autre père pour demander est-ce que tu donnerais ça à notre enfant. Ouais.
Puis tu sais, en tant qu'adulte, je pense que tu peux te renseigner aussi c'est quoi le Sephora. Enfin, quand tu vois que ta fille a 8 ans, je pense pas qu'elle a besoin de produits de beauté, sauf si elle a des problèmes de peau. Et dans ce cas, tu vas où? Chez le dermatologue.
Et demander des conseils aussi aux femmes de son entourage.
Ou juste demander chez Sephora.
Mais malheureusement, il y a un phénomène. Oui, c'est vrai que les parents devraient s'informer, mais il y a certains parents, surtout en Europe et aux États-Unis, plus qui encouragent même leur petite fille de 8 ans de faire ça sur TikTok et Instagram. Et c'est là que c'est triste, mais c'est parce que ça ramène énormément d'argent. Souvent, il y a même des parents qui eux-mêmes, c'est pas tous les parents, là, mais il y en a qui vont suivre ces tendances-là puis qui sont aussi influencés eux-mêmes par toute cette trend-là. Fait qu'ils vont utiliser leurs enfants puis les enfants deviennent un petit peu comme des objets. Puis le phénomène a commencé surtout avec Northwest, qui est la petite fille de Kim Kardashian. Mm-hmm. Mais c'est un peu elle, apparemment, qui aurait parti cette vague-là qu'elle faisait. Elle reproduisait les skincare routines de sa mère à 8 ans. Puis elle faisait des vidéos sur TikTok. Puis après ça, il y a d'autres petites filles qui ont vu ça ou qui étaient déjà sur leur tablette, qui ont commencé à faire ça. Puis c'est devenu viral, malheureusement. Fait qu'encore une fois, c'est un petit peu à cause de la perversité des réseaux sociaux. Puis TikTok, je suis allée voir, il y a environ 11,9 millions de vidéos « Get ready with me ». C'est énorme. T'sais, l'influence que ça a sur les petites filles, ces réseaux-là, c'est fou. Puis 1 million de vues peut rapporter 1 000 $. Donc souvent, il y a des petites filles. Puis plus t'es jeune, plus ça, l'attention des gens, il y en a. Donc ça ramène plus d'argent justement à ces jeunes mères-là aussi, qu'on appelle les « serum moms », qui est une autre trend aussi, qui enseignent à leurs enfants comment agir face à ces produits et à toujours en acheter plus. Puis, je pense que ce qui est vraiment à blâmer, parce qu'à 8 ans, un cerveau est aucunement développé pour comprendre l'impact, la gravité et les effets néfastes de ces comportements-là. Elles ne font qu'imiter et reproduire ce qu'elles voient. Donc, je pense que c'est vraiment les influenceuses, en ce moment, le gros problème, et les compagnies aussi, que je vais en reparler après, mais Maïna, vas-y.
Mais j'allais dire, déjà, qu'est-ce qui fait ton enfant à 8 ans sur TikTok? C'est comme, je suis pas maman, je suis pas parent, fait que je suis mal placée pour parler. Oui, c'est certain que je vais pas comprendre les réalités des parents qui nous écoutent, par exemple. Mais je suis désolée, moi à 8 ans, je sortais, j'allais voir mes amis. Alors oui, il faut grandir avec son temps. Oui, tout le monde est sur TikTok. Oui, tout le monde est sur les autres plateformes. Faut se brancher, faut être connecté, sinon tu sais que ton enfant, il va peut-être se faire harceler parce qu'il va se sentir left out de la situation, mais c'est à toi de mettre les barrières sur le contenu qu'il va visionner. C'est à toi de dire « Ok, mais pas plus de 10 minutes. » Ou alors que tu sois à côté de ton enfant quand il visionne tout ça pour lui expliquer comme « Oui, tu vois, cet enfant, tu dois faire cette vidéo, mais tu lui expliques la réalité de la chose, puis tu lui donnes toutes les informations qu'il a besoin, sinon son cerveau va pas comprendre. » À quel moment, à 8 ans, déjà tu passes ton temps libre sur TikTok? Moi, à 8 ans, je jouais à la DS.
Ouais, mais c'est pas la même, c'est pas la même génération, malheureusement. Justement, dans le temps, on se battait pour avoir une Nintendo DS parce que mon ami en a une, est plus cool que moi. Mais là, aujourd'hui, c'est d'avoir son cellulaire dans les mains, puis le contrôle, je pense qu'il est hyper difficile. Les enfants savent contourner un contrôle parental.
Mais
c'est une question de prévention, je crois, encore.
Oui, puis je pense que la faute n'est pas seulement aux parents, ni aux enfants, ni aux influenceurs. C'est aussi à nous, les spectateurs, qui encouragent ce contenu-là en commentant, en la trouvant donc cute. Parce que c'est cute. Ouais. Je suis coupable aussi de m'attarder sur ces vidéos-là, parce qu'il y a un petit être humain qui se prend pour un grand être humain. C'est tout le temps mignon. Mais genre, on est coupable. C'est nous qui font les vues. qui encouragent les parents.
Moi, je les signale, les vidéos.
Oh oui, mais tu fais tellement bien.
Ouais, mais tu fais bien.
En parce vrai, que non, ça, ça reste une réalité, malheureusement.
Attends, mais les enfants ont plus de skills en maquillage que moi.
C'est pour ça que tu les dénonces?
Oui.
Quoi?
Genre, je suis désolée, elles ont 6 ans. Elles savent déjà faire des smokies. Genre, non.
Il y a des influenceurs québécoises aussi qui font ça. Je n'aimerais pas de nom, pas se faire lancer de fleurs, mais ils mettent leurs enfants. Oh, tu veux te maquiller comme ça, comme maman? Ok, prends mon maquillage. Tu te mets ton blush. Mais dans quel monde, comme elle dit?
Mais je pense
que tu prends le maquillage de ta mère à 6 ans.
Je pense qu'il y a une part qui est naturelle. Tu sais, on est toute petite, puis vouloir faire comme nos parents, mais je pense que ça a pris des proportions.
Ouais, même moi, là, quand j'étais petite, je prenais le rouge à lèvres à ma mère, puis je jouais avec.
Ouais,
c'est juste
parce
instinctif.
Que c'est drôle, puis tu sais, genre, tu refais ce que ta maman, elle fait.
Mm-hmm. Mais l'anti-âge.
Si tu veux faire une petite soirée cocooning avec ta maman ou ta sœur ou peu importe avec qui, tu sais, je sais pas, tu fais un masque avec du miel et du sucre, enfin tu fais des choses qui sont adaptées à ta peau, moi je trouve ça.
Mais le problème, c'est ça, c'est pas juste les parents, mais c'est aussi les compagnies. Puis les compagnies de cosmétiques sont à blâmer parce que le marché dans ce secteur-là montre que les crèmes hydratantes et cosmétiques pour enfants et bébés même a une hausse avec un taux de 7,7% à chaque année, ce qui rapporte énormément d'argent aux industries dans le secteur. Je sais pas si vous savez environ, mais le secteur de l'industrie de la beauté, en 2022, il a rapporté 430 milliards de dollars américains, ce qui est énorme. Donc, les compagnies en profitent. Puis, après une reprise depuis la pandémie de la COVID-19, le marché de la beauté devrait atteindre environ 580 milliards de dollars d'ici 2027, avec le taux de croissance prévu de 6 % par année. Fait que les compagnies en profitent. Puis, malheureusement, les enfants, c'est un segment idéal parce qu'ils sont naïfs, sont extrêmement influençables. Tu sais, nous, en tant qu'adultes, on est influencés, ben imagine ces enfants-là sont vulnérables. Et le marketing devient de plus en plus adapté avec beaucoup de couleurs, de formes qui ressemblent à des jouets. Si vous allez au Sephora, vous pouvez voir, il y a même des compagnies comme Bubble et Elf, entre autres, qui créent du contenu marketing qui est destiné aux enfants. Donc, ça devient vraiment comme un autre problème sociétal aussi. Il y a la compagnie Drunk Elephant aussi, que les enfants apparemment sont obsédés par cette marque. Puis, elle vend énormément de produits qui contiennent du rétinol. C'est elle la plus problématique, entre autres. Il y a eu plusieurs cas de peau brûlée avec eux. Puis, ça crée aussi des problèmes de santé mentale, justement, chez ces petites filles-là. Ça crée des complexes qui n'existent pas. Ça fait qu'elles ont peur de vieillir alors qu'elles ont 8 ans. C'est encore des bébés. Genre, c'est fou, là. Mais ça, c'est des enfants, c'est une autre génération complètement à cause de cette vague d'influence. Et elle se laisse complètement influencer par les beauty influencers qui font des hauls du Sephora chaque semaine. Donc, elle pense qu'elles en ont besoin. Puis le problème, ce que ça fait aussi, c'est que ça fait qu'à l'âge de 16 et 17 ans, elles veulent redevenir jeunes parce qu'elles n'ont pas vraiment vécu une enfance comme normal. Puis là, je parle de ces cas-là spécifiques. Mais au moins, on a quand même le pouvoir de changer les choses, ce qui est quand même bien en tant que parent, comme vous l'avez dit, pour mieux guider la raison derrière cette surconsommation. Puis, il faut rester optimiste aussi parce qu'en Californie, d'ailleurs, il y a un projet de loi qui a été mis en place l'année passée pour empêcher de vendre des produits à base de rétinol aux enfants de moins de 13 ans. Malheureusement, ça a été avorté en mai 2024 récemment, mais ils en discutent encore. Puis, on peut aussi voir qu'en Suède, il y a des pharmacies aussi qui empêchent les enfants de moins de 15 ans d'acheter des crèmes anti-âge. Donc, on voit qu'il y a quand même des actions qui sont faites. C'est quand même bien, c'est positif. Puis, je pense que c'est important en tant que société moderne et société de consommation de prendre en compte ces enjeux-là et de comprendre que c'est à nous d'agir, qu'on peut agir avec des mesures pour changer ces comportements-là.
Moi, je pense que, justement, c'est une génération où il faut d'autant plus laisser la porte ouverte à la communication. Mm-hmm. On parle beaucoup des parents, mais, tu sais, peu importe les personnes qui entourent l'enfant, qui entourent, tu sais, comme ces personnes en général, pour leur expliquer la réalité des choses, parce que on pourra pas les empêcher de regarder des vidéos. C'est l'air, c'est notre génération qui est comme ça. On pourra pas contrôler tout ce qu'ils font, même si on essaie tant bien que mal, genre ça va pas être possible. Mm-hmm. Mais tu sais, comme si tu leur expliques à quoi ça sert, pourquoi elles font ça les madames, tu sais, tu leur expliques les traits. Enfin, tu sais, un enfant, tu lui expliques qu'il est pas bête, il va
comprendre. Capable de comprendre.
Ouais, c'est vrai. À méditer. Mais c'est tout pour moi, donc merci.
Mais merci Mélissa pour le sujet. Merci à Clara aussi pour son témoignage plus tôt. Mm-hmm. C'est déjà l'heure de se quitter. Merci à tous d'avoir été avec nous pour le 6e épisode de Bulle d'écoute sur les ondes de CISM 89.3, le meilleur de la musique indépendante et francophone. Restez à l'écoute parce qu'à 13h, c'est le podcast Noir sur table avec Stéphane Souma. D'ailleurs, si vous êtes curieux ou curieuse de radio, sachez que d'ici au 3 novembre, CISM fait un appel de projet. Donc, si vous êtes un passionné ou si vous êtes curieux, essayez. Des fois, ça prend juste un peu d'audace. On veut vous entendre.
Si vous voulez qu'on se voit en studio.
Mais oui, peut-être.
Devenez nos collègues.
Nous, il y a quelques mois, on pensait pas nécessairement faire de la radio. Fait que, puis on fait plein d'erreurs aussi. Fait que venez, essayez. Faites-le pas. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, ne vous gênez pas à nous envoyer des messages sur notre Instagram. On est toujours ouvert à avoir plus d'idées. Notre Instagram, c'est bulle-d'écoute.officiel. D'ailleurs, on aimerait vraiment ça que vous participiez à nos émissions. Venez nous écrire vos commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nos sujets. On aimerait ça. Oui. On aimerait vraiment ça. Vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts ou sur le site de CISM 89.3. Sur ce, on se dit à mardi prochain, même heure. Au revoir.
Bye. Bonne journée.
Merci d'avoir été là.
Vous faites des compositions originales en français ou en langue autochtone? Pour obtenir de la visibilité, gagner des prix, des bourses, faire des rencontres professionnelles et artistiques, il faut vivre l'expérience des Francouvertes. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour vous inscrire en ligne au francouvertes.com. Les Francouvertes, le concours vitrine de la diversité musicale, présenté par SiriusXM.
Pourquoi j'ai choisi le Cégep du Vieux-Montréal? Parce que j'ai trouvé ma place dans un programme à la hauteur de mes ambitions. Pour son campus vert, en plein cœur de Montréal, facilement accessible en métro. Pour ses professeurs d'expérience qui ont à cœur mon bien-être et ma réussite. Je l'ai choisi parce que ses valeurs me parlent, me ressemblent. Le Cégep du Vieux-Montréal, un cégep ouvert d'esprit. Vivez-vous aussi l'expérience CVM durant nos portes ouvertes le samedi 26 octobre, de 13h à 16h.
Envie de passer à l'étape supérieure dans vos études? Vous songez à une maîtrise, un doctorat ou souhaitez explorer vos options? Rendez-vous le 27 octobre de 9h à 15h à l'espace Cycle supérieur des portes ouvertes de l'UDM. C'est l'occasion parfaite pour poser vos questions aux professeurs et aux étudiants. On vous attend dès 9h au pavillon 3200 Jean Briand.
Salut, ici Hawa B. Vous écoutez CISM.
Can I get a taste of your medicine? I need to forget how it feels when I'm sin. The rush, the excitement, the guilt and the shame. When the good and the bad looks the same.
Bonjour, comment tu t'appelles?
Milo.
Tu as quel âge, Milo?
2 ans.
Et qu'est-ce que tu voudrais faire, Milo?
Ça, de la radio.
Sur CISM, il n'y a pas d'âge pour commencer la radio. L'appel de projet de CISM pour l'hiver 2025, c'est en ce moment. Si toi aussi tu veux rejoindre l'équipe de ta radio, envoie-nous ton démo et ton projet au plus tard le dimanche 3 novembre. Pas besoin d'être aux études, pas d'expérience requise. Pour plus d'infos, visite le cism893.ca à la section « Implication ».
Cette année, à la 53e édition du Festival du Nouveau Cinéma, vous pourrez voir le meilleur du cinéma actuel.
Le mardi 15 octobre, dès 16h, CISM sera en direct du quartier général du FNC pour une émission tout spéciale avec l'équipe de programmation et plusieurs cinéastes invités.
Votre chance d'orienter vos sorties ciné sur quelques-unes des 200 œuvres de 60 pays différents à l'affiche.
Un rendez-vous à ne pas manquer le mardi 15 octobre, dès 16h, sur les ondes de CISM.
Alex Ferns, vous écoutez CISM.
Hey, 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 ici Simon Pollon-Gervais, votre animateur de l'émission Tout et dans Tout, votre rendez-vous musico-culturel, amical et psychotronique. On va y explorer les liens entre la musique, les artistes et le monde. C'est un rendez-vous les vendredis 10h30 jusqu'à midi sur les ondes de CISM.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
CISM
Cette émission est une rediffusion.